Vous êtes avec Radio SBS en français.
La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif, le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France.
Quel est cet orageux qui gronde, quel est ce signe dans le ciel? Est-ce la fin de notre monde? L'apocalypse qui nous réveille. Ce sont nos frères, nos camarades, toujours ensemble et en calant. Le grand réveil de parade du premier commando de France.
L'allocution du général de Gaulle annonçant le débarquement le 6 juin 1944, suivi du chant des commandos SAS. Un retour donc sur le jour J, 6 juin 1944. Je rappelle qu'il y avait 3000 Australiens qui ont participé au débarquement. 14 d'entre eux furent tués ce jour-là. En 2004, j'ai eu l'occasion d'interviewer le lieutenant-colonel William Robertson, décoré de la Légion d'honneur en juin 2004, pour marquer le 60e anniversaire du débarquement. William Robertson a été aussi chef du bureau de ASIS, Australian Secret Intelligence Service. Il est né à Melbourne en 1917, décédé le 2 janvier 2011. Il était aussi à Tobruk, où il fut blessé. Et puis, le 7 juin 1944, et non pas le 6 juin 1944, il était sur Gold Beach, sur les plages de Normandie, avec le 51st Highland Division. On l'écoute.
Well, I was one of a small group of Australian Army officers. I think there were 14 of us. And we'd been sent over to be seconded to the British Army for these operations. It was really to give us experience of the planning and conduct of a major operation of this kind. And so we all went over and joined various units in the British Army that were to be engaged in this. And I was, at that stage, I was a lieutenant colonel and had been principal staff officer of an Australian division, so that I was seconded to the 51st Highland Division. And the 51st Highland Division was the reserve division of the 1st Corps that landed in Normandy. And I actually landed the following day. Some of our troops landed on the day, but I landed the next day, mainly because, as I said, we were a reserve division, and I was with the headquarters of that division. And we landed that. The headquarters landed at Aramosh, and the rest of the division landed over on Sword Beach.
What can you recall of that particular landing?
Well, I can recall pretty clearly, because we came down and we were off the beach in a small ship, a small British coaster, really. And so I was there when, not when the actual HR of the thing, but in the afternoon of the first day. And, of course, I can recall the naval support that was going on. The battleships and the cruisers were firing across and supporting the troops on land. And above, of course, was a constant air cover of fighters. And in the sea in front of me was a constant stream of small craft of all kinds, landing craft going in and landing troops and stores and returning to their mother ships for more of the same. And it was just a tremendous scene, and I was terribly impressed by what I saw, and I came away with a very, very strong feeling that I was being privileged to witness what I believed was going to be the end of Nazi Germany's domination of Europe, the beginning of the end of it anyway. It was a tremendously impressive sight.
Were there other Australians at your side?
The only Australian soldiers that were involved, and they took part in various things. One was a tank commander, one was an engineer, one was a signaller, in another British division, a signal officer, and so on. And I was a staff officer, and we had other staff officers and different branches of the staff. But we were all in different units, seconded to different units.
How old were you?
I was 27.
27?
Yes.
And what prompted a young man to go to join the forces then?
I was in the Australian Army, and I was seconded from the Australian Army and attached to the British Army. I joined the 2nd AIF in October 1939. I was at the university, and I was very conscious of the pending war, and I wanted to return and join my troops in my own country. So rather than staying in England then, I went back to Australia, and I fought with the AIF in the Western Desert, in Greece and in Crete, and twice I went to, I had two tours in New Guinea. So I'd had a pretty great experience of war by the time it came around to 1944.
Did you at any stage have the impression that the enemy was going to fight back and regain the upper hand?
Oh, yes. There was a tremendous amount of fighting in Normandy, particularly. Well, all the way up there was considerable resistance. And I think that it's historically known now that the deception operation that went on at the same time really misled the Germans, and they held back some of their Panzer divisions in the Pas de Calais, because that's where they thought the main landing was going to take place. They thought that what we were doing down in Normandy was just a feint. And that impression, I believe, they had for several days. And had they moved, as I think Rommel wanted them to, moved Panzer divisions down from the Pas de Calais to Normandy, it would have been a very serious thing indeed for us. But I was never... I suppose you're always optimistic when you go into these battles, and I was never afraid that we were going to lose anything, but it could have been very, very serious. And particularly as a couple of days after the landing, the weather turned very much against us, and it was difficult to get reinforcements and stores ashore. But thank goodness that passed quickly.
What was the experience like when you met the French people and they were liberated? What was the feeling then?
Oh, I think they were, those of them that I met, and I only met, a few in the streets. I wasn't attached to any French unit on land, but I think it was a tremendous relief. I mean, it was nothing but joy, as far as I could see, with our coming. Gave you a tremendous feeling that it was really a great thing.
Voilà le lieutenant-colonel William Robertson, décoré de la Légion d'honneur en juin 2004. C'était pour marquer le 60e anniversaire du débarquement du 6 juin 1944. Et aussi en 2004, j'ai eu l'occasion d'interviewer Sir Maurice Roe, ancien chef-juge de Maurice, qui en 1939 s'est enrôlé comme navigateur au sein de la Royal Air Force. Que faisait-il le 6 juin 1944 ? Écoutez.
Si vous voulez le savoir, j'ai lancé des confettis dans la figure des Allemands. C'est pas une blague.
Oui.
Pour cacher les objectifs véritables, la RAF lançait de petits groupes de bombardiers qui ne transportaient que des lamelles de papier métallisé qu'ils déversaient dans l'air, comme ces lamelles faisaient sur les écrans de radar les mêmes échos qu'une flotte puissante de bombardiers. La DCA allemande mobilisée, les chasseurs décollés pour intercepter l'agresseur, mais elle ne trouvait dans le ciel vide que des confettis à combattre. Car aussitôt après, nous faisions demi-tour et rentrions à toute vitesse en Angleterre.
Alors, rappelez-nous un petit peu encore votre parcours comme navigateur au sein de la RAF.
Écoutez, j'ai pas fait grand-chose, vraiment. J'ai été un très modeste navigateur. D'abord à la 103e escadrille de bombardement lourd et vers la fin de la guerre, à la 582e escadrille des Pathfinders.
Sir Maurice, qu'est-ce qui a emmené un jeune Mauricien comme vous à cette époque des années 40 à se retrouver au sein de l'armée britannique?
J'étais attiré naturellement par l'auréole de la RAF dans l'énorme débâcle. Elle était la nouvelle chevalerie qui sauvait l'honneur des hommes. Mais j'avais bien d'autres mobiles. Je fus poussé à la fois par la curiosité de voir la guerre de près, le désir d'éprouver mes muscles au feu, l'âpre délice de voltiger sans filet, la volonté très consciente de soigner ma biographie même au risque de l'abréger. Mais pourquoi en avoir honte? Il y avait aussi une raison désintéressée. Et cette raison s'appelait la France. Cela me gênait de lire Corneille ou Peggy pendant que les Fritz remontaient les Champs-Élysées au pas de loi. Je voulais donner, moi aussi, un coup de main pour libérer Claudel et Valérie.
Saint-Maurice, vous êtes un des rares témoins de l'époque. Racontez un peu les missions de la RAF effectuées en Allemagne pour mettre fin rapidement à cette guerre.
Je crois que la RAF a joué un rôle décisif par les destructions qui ont ralenti les productions allemandes et surtout parce qu'elle a causé un retard d'un an sur les armes nouvelles que les Allemands mettaient fiévreusement au point. Je ne parle pas des V1 et des V2. Hein, elles n'ont joué qu'un rôle marginal. Mais tout change lorsqu'on arrive au Messerschmitt 262, qui fut le premier avion à réaction. Il surclassait tellement tout ce que nous pouvions lui opposer que si, au jour J, les Allemands avaient eu 1000 appareils de cette classe, alors le débarquement, fini, terminé, kaput. Pour deux raisons. D'abord, il aurait eu un massacre irréparable sur les plages. Mais deuxièmement, et surtout, le débarquement a réussi parce que par toutes sortes de ruses mirobolantes, les Anglais ont persuadé les Allemands que la Normandie n'était qu'une diversion pour masquer le vrai débarquement qui aurait lieu dans le Pas-de-Calais. En conséquence, les blindés allemands attendirent sans bouger un ennemi qui ne viendrait jamais, car autrement, ils auraient rejeté les Alliés à la mer. Mais cette ruse n'aurait trompé personne si le 262 existait, car il aurait pu se balader sans problème sur le Kent, et ses photos auraient montré que la soi-disant armée Patton n'existait pas et que ses tanks étaient en carton.
D'autres anecdotes de cette époque?
Je crois que nous avons battu les Allemands parce que nous savions rire mieux qu'eux. Non, par exemple, l'affaire d'Amiens. Les Allemands, qui avaient poussé très loin lors du camouflage, avaient construit près d'Amiens un faux aérodrome avec des avions en contreplaqué. Ayant éventé la ruse, des bombardiers légers de la RAF les arrosèrent copieusement avec des bombes en bois. Ne dites pas que c'était une opération inutile. Cela a fait beaucoup pour notre morale, parce que les hommes suivent toujours partout des hommes qui sont capables de ces superbes impertinences. Dernière anecdote.
Oui.
La seule fois où je fus témoin d'un exploit, mais en spectateur plutôt qu'en acteur, c'était en revenant d'une mission sur l'Allemagne. Notre bombardier fut atteint par un obus qui explosa dans l'aile. Et un éclat, dans une trajectoire bizarre, heurta mon pilote à la tempe, et par une série de coïncidences quasi miraculeuses, ne le tua pas. Mais il fut mis knock-out et il tomba sur le manche à balai. Et l'avion piqua follement vers le sol. Je croyais que c'était fini, mais mon pilote était un vrai dur. Au bout de quelques secondes, il reprit connaissance et nous dit « Ok, boys, I got her. » La discipline sur l'interphone était très stricte. Je ne répondis rien, mais la côte anglaise franchit. Je ne pus me retenir. Je l'appelai et lui dis « Navigateur au pilote, mes excuses. Je croyais que tu avais la tête en bois. J'avoue qu'elle est en acier. »
Donc vous êtes rentré sain et sauf, heureusement.
Oui. Avec quelques trous dans l'aile.
Avec quelques trous dans l'aile. Saint-Maurice, je me demande s'il y avait d'autres Mauriciens et Mauriciennes à vos côtés qui participaient à cette libération de l'Europe. Là, je pense surtout à Lise de Boucherville-Bessat qui est décédée récemment à l'âge de 98 ans.
Oui. Écoutez, je connais surtout ceux qui étaient dans la RAF. Il y a eu malheureusement plus de tués que de survivants. Les Grecs disaient « Ce que les dieux aiment meurt jeune ». Cet implacable amour allait fondre sur Robert Larcher, Gérard Hittier, Guy Dassonville, Henry Sims, Hervé Rochecout, Maurice Coutenceau, France Farla, et trois dont je ne connais pas les prénoms, Lagesse, Camille, Précieux. Parmi leurs camarades qui survécurent, Il y eut Maurice Paturo, qui, non content de décrocher une belle Distinguished Flying Cross, fut fait compagnon de la Libération par De Gaulle. On compte aussi Cyril Blackburn, Gabriel Boulox, Dick Dupré, Louis Galéa, Éric Guérin, Jock Hay, René Mingard de Villers-aux-Francs, Robert Noël, Maurice Rambert et Soucy, et d'autres que je n'ai pas connus.
Dites-moi, Sir Maurice, est-ce que vous connaissiez cette dame, Lise de Boucherville-Bessac?
Elle est restée dans les services secrets, par conséquent, peu de gens ont dû la connaître. Parmi les combattants de l'ombre, il y a eu Alex Dunerville, Odette Ernest et quelques autres. Mais ceux-là, je les ai peu connus.
Sir Maurice, quelle leçon tirez-vous de votre vie, disons la sagesse acquise après ces années 40, après ces années noires?
Je ne dirais pas que c'était une année noire, c'était plutôt une année rouge, d'un beau rouge vif. Et pendant la guerre, l'honneur nous commandait de cogner sur les nazis.
On passe maintenant à Maurice Paturo, capitaine pendant la guerre. Il a participé aux opérations de Libye comme navigateur et puis avec le groupe Lorraine en Angleterre. Il a effectué des missions de bombardement contre les Allemands. Il a été fait compagnon de la Libération par le général de Gaulle. Il a aussi écrit ce livre « Agent secret mauricien en France de 1940 à 1945 ». Que faisait-il le 6 juin 1944. Écoutez.
J'étais dans l'aviation parce que j'étais pilote civil avant la guerre, quoique avec peu d'expérience. Et j'ai fait mon service militaire et puis nous avons été démobilisés avec l'arrêt des hostilités en France. Puis je suis parti pour l'Angleterre où je suis rentré détaché dans la Royal Air Force au squadron, à l'escadrille 342, groupe Lorraine. Et là, j'ai fait la guerre comme navigateur dans des bombardiers légers, principalement des Blenheim et puis des Boston.
Parlez-nous du 6 juin 1944. Où étiez-vous et que faisiez-vous ce jour-là?
Notre mission ce jour-là, c'était de répandre un rideau de fumée devant une des plages de débarquement. Malheureusement, il y a eu un choix. Nous avions que 12 avions à fournir. Et je n'étais pas dans ces 12. Je suis donc resté en spectateur alors que mes condisciples faisaient le rideau de fumée qui a eu un grand succès du reste. Nous avons perdu un équipage, mais les 11 autres sont rentrés indemnes.
Monsieur Paturo, si nous parlions maintenant de votre livre « Les agents secrets mauriciens en France 40-45 », quel était tout d'abord le but d'écrire ce livre?
Il y avait trois objectifs principaux. Ne pas laisser tomber dans l'oubli les actions d'éclat d'un certain nombre de Mauriciens pendant la guerre 39-45. Et je pensais que le 50e anniversaire de la fin de cette guerre était une bonne occasion pour éditer ce mémorial. Ça, c'était un des objectifs. Le deuxième, c'était de faire comprendre que via les services secrets, un très petit nombre d'agents pouvaient opérer des destructions considérables avec des résultats tactiques extrêmement importants. Finalement, il fallait retracer sommairement les principaux réseaux ayant été sous le commandement de Mauriciens pendant la période 41-45. Et dans le livre, il existe une carte où on voit le nombre de réseaux mauriciens qui n'est pas négligeable comparé au nombre de réseaux total érigés en France.
Parlons un peu de ces agents secrets mauriciens travaillant pour la France. Quelles ont été un peu leurs contributions à la libération? Et là, je pense aux missions effectuées, oui. Car il ne faut pas oublier la contribution de ces mauriciennes qui étaient, elles aussi, des agents de la France.
Et nous avons eu 14 principaux agents, ce qui est un nombre très fort comparé à la population de Maurice.
Oui.
Mais nous étions bien... au départ même, nous avions une meilleure chance parce qu'on parlait bien et le français et l'anglais, ce qui nous donnait un avantage sur beaucoup d'autres agents qui opéraient en France. Oui. Venant de l'Angleterre. Et alors, dans ces 14, je vous cite les noms de ceux qui ont le plus marqué notre épopée. Il y a Anterne d'abord. Lui, c'était le grand conseiller et coordonnateur. Et puis, il y avait Bessac. C'était le grand baroudeur, en équipe avec sa sœur, du reste.
Oui.
Et puis, Duclos, qui était le Benjamin. Alix Dunienville, l'indestructible, qui a été dans plusieurs camps de concentration, et puis on est revenu. Jean et Maurice Larcher, les deux durs, Mingard, le chevalier, les trois frères mères, la terreur des Allemands, Delaroche, la liaison avec les Américains, Clarenc, le martyr des camps de concentration. Voilà les noms des principaux qui ont été SOE pendant la guerre, c'est-à-dire agents secrets, et qui se sont excellemment bien conduits. Je dois mentionner également que nous avions des Mauriciens dans la SAS, Special Air Services, et des parachutistes.
Oui.
Je crois qu'on vous a déjà parlé des actions de Raymond Rowe, auxquelles il faut ajouter ceux de Hyacinthe Vier et de Yves Quentin. À peu près en résumé très succinct, ce qu'on essaye de développer dans le livre pour que la mémoire de ces officiers reste parmi les générations à venir.
Monsieur Patureau, quel serait le message que vous aimeriez adresser aux jeunes d'aujourd'hui, à tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent?
Il y a un texte de Brossolette qui était un agent secret lui-même et qui a écrit pendant la guerre. Et j'aurais voulu, en guise de conclusion, peut-être vous lire ce court texte. En étudiant ces hommes, je cherchais à comprendre en quoi ils se distinguaient de leurs compatriotes. En vérité, ils n'étaient pas tellement différents, mais étaient plus résolus et plus tenaces. La libération de leur pays était devenue plus qu'une vocation, c'était un devoir. La gloire est comme ces navires où l'on ne meurt pas seulement à ciel ouvert, mais aussi dans l'obscurité pathétique des cales. C'est ainsi que luttent et que meurent les hommes du combat souterrain de la France. Saluez-les, Français, ce sont les soutiers de la gloire.
Monsieur Patureau, je vous remercie pour votre contribution à cette occasion, en cette année du 50e anniversaire de la victoire des Alliés contre le nazisme. Merci beaucoup.
Ça a été un plaisir pour moi. Merci aussi. Au revoir.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.